Chapitre 5 et au verset 36, un très court verset, et nous allons essayer de creuser un petit peu ce que tout cela peut signifier. Jésus leur dit aussi une parabole. Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit, car il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. Amen. On peut le relire si vous voulez. Voilà, Jésus leur dit aussi cette parabole. Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit, car il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. Amen. Voilà, nous avons là une leçon de couture. Hein? Je ne pense pas que Jésus se soit lui-même adonné à la couture, puisqu'il n'était pas tailleur ni couturier, mais il était charpentier. Cependant, eh bien, ce qu'il nous raconte là tombe sous le coup du bon sens. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple. Ça veut dire que on ne fait pas du neuf avec du vieux. On ne fait pas du neuf avec du vieux. Alors, pourquoi est-ce que Jésus a raconté ces histoires de chiffon, j'allais dire, hein? Eh bien, de la même manière qu'on ne fait pas du neuf avec du vieux dans le domaine vestimentaire, il nous faut comprendre que ce que Dieu désire, ce n'est pas simplement raccommoder notre vie, rapiécer notre existence, l'arranger un petit peu. Non, il veut plutôt nous donner une nouvelle vie tout entière. Voilà, il veut tout transformer, parce que quand le Seigneur vient dans une vie, il ne fait pas le travail à moitié, vous voyez. Il ne veut pas rapiécer, mais il veut transformer entièrement notre vie, nous remettre complètement et totalement à neuf. En quelque sorte, on peut le dire comme ça, il veut nous donner un nouvel habit, un vêtement nouveau, vous voyez. Souvent dans la Bible, et nous allons évoquer ça cet après-midi, il est question d'habits, il est question de vêtements, parce que dans la Bible, très souvent, l'habit représente l'état de notre âme, l'état de notre cœur. Et j'aimerais mentionner quelques-uns de ces habits, de ces vêtements dont l'Écriture nous parle. Quel est le premier habit dont il est question dans la Bible? D'après vous, pour ceux qui connaissent la Bible. Eh bien, le premier habit dont il est question... C'est celui qu'ont tenté de confectionner Adam et Ève après qu'ils aient péché. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, au verset 7, n'est-ce pas, il est dit qu'après qu'ils aient désobéi à l'ordre divin, les yeux de l'un et de l'autre, Adam et Ève, s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu ensemble des feuilles de figuier, il y en a un derrière, hein, le jardin, vous y revoyez, ils s'en firent des ceintures. Voyez. Alors, qu'est-ce que ça voulait dire, ça? Ça voulait dire qu'après leur désobéissance, eh bien, Adam et Ève se sont sentis tout à coup mal à l'aise. Leur conscience a été troublée et ils ont éprouvé de la honte. Vous savez, ce sentiment qu'on éprouve lorsqu'on a fait quelque chose de mal, lorsqu'on a fait quelque chose, eh bien, qui est contraire à la décence, qui est contraire à ce qui est correct. Et ils ont tenté, à leur manière, les pauvres malheureux, de résoudre le problème. Vous imaginez que cet accoutrement des feuilles de figuier, ça n'était pas très efficace pour couvrir leur nudité. Et bien souvent, eh bien, on fait comme ça. On fait comme ça. On fait comme ça dans le sens que, bien souvent, les hommes veulent cacher leur condition de pécheur. Alors, il y a ceux qui cachent leur condition, leur état de pécheur, par exemple par l'éducation. C'est très bien l'éducation, hein ? On n'est pas contre, au contraire. La parole de Dieu l'encourage. Mais on a cru que si on donnait une bonne éducation aux gens, si on en faisait des gens instruits, pleins de savoir, de connaissances, les affaires du monde iraient décidément mieux. Et on constate aujourd'hui qu'il n'en est rien, n'est-ce pas ? On a des gens éduqués, on a des gens instruits, mais... Ce sont des pécheurs instruits, mais des pécheurs malgré tout. Voilà. Et puis, il y a ceux qui se cachent. Notre sœur en a parlé un petit peu tout à l'heure. Derrière l'habit de la religion, dont ils se parent, pensant pouvoir y trouver une justification. Et dans la parole de Dieu, il est question d'un homme qui était éminemment religieux. Mais vous allez voir que ça ne suffisait pas pour le rendre net aux yeux du Seigneur. On trouve son histoire dans le livre du prophète Zacharie, au chapitre 3, au verset 1er. Voilà le livre du prophète Zacharie, un petit peu avant l'évangile de Matthieu, au chapitre 3, au verset 1er, où il dit ceci: « Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, « Que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu ? » Or Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « Ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Voici, je t'enlève ton iniquité et je te revais d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. » Et ils mirent un turban pur sur sa tête et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Voilà, il est question du souverain sacrificateur, c'est-à-dire du grand prêtre, vous voyez, du plus haut dignitaire, du plus haut responsable de la religion israélite. Hein, cet homme qui occupait des fonctions religieuses particulièrement importantes, qui dans la hiérarchie religieuse était tout à fait au sommet. Et pourtant, voyez, malgré toute sa pratique religieuse, malgré ses fonctions sacerdotales, parole de Dieu nous dit que en fait, il était couvert de vêtements sales. Voilà. La religion avec ses pratiques, avec ses rites, avec ses sacrements, ne parvient pas à ôter notre péché. Ne parvient pas à ôter notre péché. D'ailleurs, quand on lit les évangiles, on s'aperçoit que Jésus a été particulièrement sévère avec les religieux hypocrites, n'est-ce pas ? Parce que souvent derrière les apparences de ces hommes éminemment religieux se cachait, se dissimulait un cœur mauvais et corrompu. On dit « l'habit ne fait pas le moine ». Et du temps du Seigneur Jésus, il y avait cette caste religieuse que l'on appelait des pharisiens. Ils avaient, sur le plan vestimentaire, justement, une tenue extrêmement stricte et rigoureuse. Mais quand on grattait un petit peu le vernis, on s'apercevait qu'à l'intérieur, c'était corrompu, c'était perverti. Voyez ? Et c'est ainsi que la religion, souvent, hein, pas pour tous, c'est vrai, mais pour beaucoup, ne sert qu'à cacher les apparences et en tout cas ne parvient pas à ôter, à enlever, à dissimuler le péché. Mais, voyez, je n'ai raconté que la moitié de ces deux histoires. Parce que, dans le cas d'Adam et Ève, hein, dans le chapitre 3 du livre de la Genèse, et au verset 21, il dit que Dieu a pris une initiative. Voilà, cet habit de feuilles de figuier ne convenait pas, ça n'était pas décent, ça n'était pas correct, et à ce titre, ça ne pouvait pas, n'est-ce pas, apaiser, calmer la conscience troublée d'Adam et Ève. Alors Dieu a pris une initiative rigoureuse. Et la parole de Dieu nous dit dans ce chapitre 3, ce verset 21 du livre de la Genèse, que Dieu lui-même leur a confectionné des habits de peau. Voilà, ça c'était plus saillant, c'était plus efficace pour couvrir leur nudité. Eh bien, chers amis, c'est ce que Dieu veut faire aussi pour nous. Il veut couvrir notre nudité spirituelle, notre nudité morale. Dans le livre de l'Apocalypse, qui est le dernier des 66 livres de la parole de Dieu, au chapitre 3, au verset 17, le Seigneur s'adresse à des gens qui étaient pleins de prétentions et d'illusions sur leur propre compte, voyez. Ils pensaient que tout allait bien alors que tout allait mal. Et il leur dit ceci, « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. » Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas et un collier pour oindre tes yeux afin que tu voies. Il y a des gens qui sont ainsi, ils pensent que tout va bien. Ils n'ont rien à se reprocher, pensent-ils. Ils n'ont jamais rien fait de mal. Voilà, ils ont une moralité particulière. Alors ils pensent que Dieu lui-même ne peut rien avoir à leur reprocher. Et ces gens-là étaient ainsi. Ils disent, non, on n'a besoin de rien. Votre évangile, j'en veux pas. Votre Dieu, j'en ai pas besoin. Et Dieu les interpelle en disant, mais tu ne sais pas que tu es misérable, pauvre, aveugle et nu. C'est pas? C'est-à-dire que tu es dans une situation spirituelle et morale catastrophique et dramatique. C'est souvent la découverte, la révélation que nous avons lorsque nous venons pour là où les premières fois à l'écoute de l'Évangile, on se pensait très bien. On estimait, je viens de le dire, n'avoir rien ou pas grand-chose à se reprocher. Et puis à l'écoute de la parole de Dieu, le Seigneur nous révèle ce que nous sommes à ses yeux. Parce que mes amis, vous en conviendrez, ce qui compte, ça n'est pas l'opinion que les autres ont sur votre propre personne. Ce n'est pas même l'opinion que vous avez sur vous-même, c'est l'opinion que Dieu a à votre égard, à votre sujet. C'est ce qui apparaîtra au jour du jugement. Et mes amis, lorsque nous considérons les vérités de la parole de Dieu, même si jusqu'à présent nous n'avions pas conscience d'être bien méchants, eh bien nous apparaissons tels que nous sommes, des pécheurs. Alors le Seigneur dit, voilà, je veux te donner un vêtement blanc. Un vêtement blanc, ça parle de pureté, autrement dit, je veux ôter, je veux enlever le péché, la souillure morale, la honte que cela produit dans ta conscience. Je veux te sauver, je veux te pardonner, n'est-ce pas? Tout à l'heure, notre sœur parlait de noirceur spirituelle, de saleté, de souillure morale. Eh bien, quand le Seigneur vient dans notre vie, il nettoie tout cela. Alléluia! Hein? Voilà, il y a ce verset dans la Bible que j'aime bien citer où le Seigneur dit quand tu te laverais avec du nitre, quand tu emploierais beaucoup de potasse, voilà, des savons bien décapants, quand tu passerais 10 fois de suite sous la douche, je le dis comme ça moi, hein? Eh bien ton iniquité, ton péché resterait marqué devant moi. Il n'y a rien qui puisse faire disparaître notre péché aux yeux du Seigneur, sinon sa grâce. Pareil pour Josué, le souverain sacrificateur dont nous venons de parler il y a quelques instants. Voyez, cet homme, ce haut dignitaire de la religion, cet homme qui avait de hautes fonctions, des responsabilités importantes, cet homme qui est pétri de religion jusqu'au bout des ongles, si l'on peut dire, n'est-ce pas? Tout entier religieux et cependant couvert de vêtements sales, le Seigneur est intervenu en sa faveur. Et le Seigneur a dit, ôtez-lui les vêtements sales, et voici, j'enlève ton iniquité, c'est-à-dire ton péché, et je te revais d'habits de fête. Voilà ce que Dieu veut faire. Pardonner ton péché et te donner la capacité de vivre une vie pure, sainte, honnête, juste, droite, en accord avec la volonté de Dieu. Est-ce que vous voulez cela ? La question. Est-ce que vous voulez que votre vie change ? Ou alors est-ce qu'on veut rester dans notre situation déplorable ? Cette situation de pécheur, vous savez, il y a des gens qui aiment le péché. Il y a des gens qui y trouvent, pensent-ils, leur compte. Mais la Bible dit que la joie du pécheur, elle est de courte durée. Hein? Un jour, nous en subirons les effets désastreux. C'est vrai que le péché, il a souvent un aspect agréable. Hein? Je parlais d'Adam et Ève tout à l'heure, lorsque Ève a regardé cet arbre de la connaissance du bien et du mal dont Dieu avait dit, vous n'y toucherez pas, vous n'en mangerez pas, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Oh, elle a écouté la voix du diable qui lui disait, mais voilà, si tu en manges, toi et ton mari, eh bien vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux. Et l'Écriture dit, je le lisais ce jour-ci, qu'elle vit que l'arbre était son fruit agréable à la vue. Il était bon à manger et il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Vous voyez, il était agréable, il était bon, il était précieux. Et elle s'est laissée tromper, elle s'est laissée séduire, pensant que, eh bien, en consommant de ce fruit pourtant défendu, eh bien, vraiment, ça allait être le comble du bonheur. Et ça a été tout le contraire qui s'est produit. Parce que depuis qu'Adam et Ève ont désobéi, nous avons désobéi par la suite, la situation de l'humanité est catastrophique. Non, 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 le péché, ça n'apporte jamais rien de bon. Jamais rien de positif, jamais rien de sûr, de durable. Et on en subit toujours, tôt ou tard, les effets fâcheux. Alors, la question se pose de savoir, voilà, quel genre de vie vous voulez mener, hein? Quel genre de vie? Voulez-vous mener cette vie dont nous parlons? Une vie de pureté, de sainteté, d'honnêteté, de justice, de droiture, en accord avec la volonté de Dieu? Mes amis, si vous faites ainsi, si c'est le choix que vous faites, eh bien un jour le Seigneur vous accueillera. Il vient dans notre vie, voyez, pas seulement pour nous pardonner, parce que s'il n'y a que le pardon, ça ne résout pas le problème. Si le pécheur est pardonné, mais que dans sa nature profonde, il reste pécheur, eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? Il recommencera les mêmes erreurs que par le passé. Oui ou non? Ce qu'il faut, c'est que le péché soit déraciné, c'est qu'il y ait cette transformation, cette libération intérieure que le Seigneur seul est capable de produire. Et c'est ce qu'il veut faire. Hein? Il veut débarrasser votre vie de ce vêtement sale et souillé, comme il est écrit là, vous revêtir d'un habit de fête. Amen. Parce que c'est une vraie fête quand on sait que l'on est sauvé et que l'on sait qu'un jour, on ira dans le ciel, qui est un lieu de bonheur sans fin, de joie éternelle. Voilà, la vie sur la terre, finalement, elle est si courte. C'est pas vrai ? Ben oui, elle est courte. Moi, je suis tout étonné d'être arrivé à l'âge où je suis. Hein? Et je me dis, mais ça a passé si vite. Dans ma tête, là, je me vois encore tout gamin, en culotte courte, en train de jouer au cow-boy aux Indiens, hein? En train de faire des cabanes avec mes copains. Oui, mais c'était hier, je vous assure. Et puis, quand on se retourne, on se dit, voilà, tiens, il y a 1 an, il y a 10 ans, il y a 20 ans, tu as été là, tu as fait ci, tu as fait ça. Et puis la majeure partie de la vie est passée. Quelques années de plus, et puis ce sera terminé. Ah, quand il n'y a pas d'espérance dans le cœur, c'est terrible, voyez. Cet été, au cours de nos congés, nous avons visité des personnes de notre famille comment dire, sur le plan humain, tout va bien, vous voyez, il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème majeur, il y a là un couple qui marche à peu près, voilà. Sur le plan matériel, financier, ils n'ont besoin de rien, ils ont une belle maison, ils ont même une résidence secondaire. Humainement, on pourrait dire, mais tout va bien, ils sont heureux ces gens-là. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser à eux, parce que maintenant ils prennent de l'âge. Ils me disent, mais... Ils n'ont aucune espérance. Aucune espérance. Dans 10 ans, dans 20 ans peut-être, si Dieu leur prête vie, ils ne seront plus de ce monde. Et leur âme, où sera-t-elle? Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Lorsque je partirai, lorsque je quitterai cette terre, où est-ce que j'irai? Où est-ce que j'irai? Quel sera mon avenir? Hein? Alors il y a des gens qui disent, mais non, allez, il ne faut pas se fracasser. Il n'y a rien après la mort. Si, si. La Bible dit qu'il est réservé aux hommes, aux femmes aussi d'ailleurs, de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ah, il faut se préparer à la rencontre de Dieu, il faut recevoir cet habit nouveau, cet habit de fête. Vous voyez, dans la Bible, là, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 22, hein, Jésus nous parle de cet homme qui ne s'était pas préparé pour le grand jour. Il avait été convié à un festin, hein, à une fête. Et il est dit ceci, je lis pour vous, Matthieu chapitre 22, verset 11. Le roi entra. Qui c'est le roi? C'est Jésus le roi. Il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Vous savez ça? Le roi des rois. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces, un habit de fête. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit à ses serviteurs, liez-lui les pieds et les mains, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. On est tous appelés. Le Seigneur nous appelle. Vous êtes tous appelés. Vous, moi, le Seigneur nous appelle. Pourquoi faire? Pour nous donner une tannée, pour nous faire du mal, certainement pas, pour nous sauver. Parce que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés, n'est-ce pas? Mais il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Regardez, on est peu, bien peu cet après-midi. Et lesquels d'entre nous seront un jour dans le royaume des cieux? Et lesquels d'entre nous seront en dehors du royaume des cieux? Il ne tient qu'à nous de faire partie de ces élus. Pour être au nombre des élus, il faut répondre à l'appel du Seigneur. Voilà. Vous êtes appelés. Dites au Seigneur, ben je viens à toi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me sauves. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour recevoir cet habit de fête? Eh bien, il faut venir tel que nous sommes. On l'a chanté tout à l'heure. Tel que je suis. Tel que je suis. D'ailleurs, on ne peut pas venir vers le Seigneur autrement que ce que nous sommes. Je le disais tout à l'heure, avec les hommes, on peut tricher, on peut se mettre des masques, on peut, c'est pas, jouer la comédie, on peut faire semblant, on peut apparaître meilleur que nous ne sommes réellement, mais avec Dieu, on ne peut pas tricher. Il sait ce que nous sommes, ce que nous valons, très exactement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour recevoir cet habit nouveau de pureté sur notre âme? Eh bien, ce qu'a fait ce garçon dont il est question dans la Bible, dans l'évangile de Luc, au chapitre 15, vous savez, un homme avait 2 fils. Voilà. Et le plus jeune, un jour, a dit à son père, « Donne-moi la part de bien, d'héritage qui me revient. » Alors il a ramassé son magot, puis il est parti, claquant la porte, plein de mépris, de dédain pour son père. Le vieux, il n'y comprend rien. C'est comme ça qu'il aurait parlé s'il avait vécu aujourd'hui. Je vais vivre ma vie, moi. Je veux prendre mon destin entre mes mains. J'en ai assez de l'autorité de mon père, d'être sous sa dépendance. Je veux être libre. Alors les poches pleines de sous, il est parti et... Il a vécu, enfin il a tenté de vivre dans la débauche.
Ah, il s'est éclaté comme aujourd'hui, comme on dit aujourd'hui. Mais au bout d'un temps, eh ben, il a craqué tout ce qu'il avait. Hein. Il s'est retrouvé seul, dans la misère la plus sombre, dans le désespoir le plus grand. Il est devenu comme un vrai clochard. Il n'a eu d'autre solution que d'accepter le premier emploi qui se proposait, garder les cochons. Pour un juif, il n'y avait pas pire que ça. Puisque pour un juif, le porc, c'est un animal impur. Et voilà, il était là avec ses bêtes qui grognaient toute la journée. Et il était tellement mal payé qu'il en arrivait à vouloir manger la bouillie des cochons. Dites, il faut être descendu bas quand même. Alors il a dit, qu'est-ce que j'ai fait? Quelle folie m'a prise? Quelle est la solution? Quel est le remède? Comment je peux m'en sortir? Elle a dit, il n'y a qu'une solution, c'est de retourner de là où je suis parti et de dire à mon père, j'ai péché contre le ciel, contre toi, je ne suis pas digne, je suis plus digne que tu me considères comme ton fils, mais traite-moi au moins comme un domestique que j'ai un morceau de pain à manger. Voilà, et la Bible dit qu'il n'a pas seulement dit, il faudrait le faire, il l'a fait. Il l'a fait, parce qu'il y a des gens, ils sont comme ça. Un de ces jours, je ferai. Hein? On ne connaissait pas. Un de ces jours, je me convertirai. Oui, oui, l'évangile, c'est la vérité. Oui, oui, c'est bien. Oui, oui, je veux aller au ciel. Mais laissez-moi, en attendant, profiter de la vie. Laissez-moi prendre du plaisir. Laissez-moi mener la vie comme je souhaite la mener. Et puis, lorsque ce sera le moment, eh bien, je reviendrai vers le Seigneur. Non, non, mes amis, c'est un mauvais calcul, ça. C'est un mauvais calcul. Ne laissez pas le diable vous dire plus tard, tu as le temps, tu es jeune. Hein? Jésus, l'évangile, tout ça, c'est pour les vieux. Hein? Eux, ils ont besoin de se préparer à rencontrer Dieu. Mais toi, tu as encore de belles années devant toi. Alors, laisse tomber tout ça. Non, non, c'est maintenant, c'est tout de suite. Et ce garçon dont je parle, il est revenu vers son père, la tête basse, humilié, brisé, malheureux. Repentant, réalisant combien il avait offensé son père. « J'ai péché contre le ciel et contre toi, mon père. » Il est plus digne d'être appelé ton fils. Et la Bible dit que son père, quand il l'a vu, il a couru à sa rencontre. Il l'a serré contre son cœur, avec compassion, avec amour. Ça, c'est Dieu, voyez. Ça, c'est Dieu. Quand on pense à ce que Dieu est, quelle image vous avez de Dieu? Vous croyez que Dieu vous attend sur le pas de la porte, là, les bras croisés en disant, attends mon gaillard, je vais te faire payer hein, tes 400 coups, tu vas voir de quel bois je me chauffe. C'est pas Dieu ça, il y a des gens qui voient Dieu comme ça. Un père fouettard, quelqu'un qui vous castagne, hein, quelqu'un qui vous tape dessus. Mais c'est pas ça Dieu. C'est un Dieu d'amour, de grâce, au moment où tu reviens vers lui. Même si tu as fait les pires choses, les pires des pires. Lorsque tu reviens humilié, repentant, disant j'ai péché, j'ai commis folie, pardonne-moi. Il te reçoit avec amour, parce qu'il t'aime. Il n'aime pas le style de vie que tu as eu peut-être jusqu'à ce jour, mais il t'aime toi. Tu es précieux à ses yeux. Et le père de notre histoire a dit à ses serviteurs, « Vite, apportez la plus belle robe, le plus bel habit !» Et l'en revêtait. J'imagine qu'après avoir gardé les cochons pendant un certain temps, il devait avoir sur ses habits une odeur particulière, hein, une odeur pestilentielle. Alors on l'a débarrassé de cet habit souillé, impur, voilà, de cet habit nauséabond et l'a revêtu. De la plus belle robe. Quelle est la plus belle robe? Quel est le plus beau vêtement? Hein? Vêtement du salut. Hein? Ces temps-ci, là, quand ça a été les élections présidentielles, on a reproché à certains de s'être fait offrir des costumes coûteux. Hein? L'actualité a parlé de cela, les journalistes. Des costumes qui valaient, je ne sais plus, moi, plusieurs milliers d'euros, vous rendez compte? Mais ce n'est pas le plus bel habit, ça. Hein? Dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 61,
Et au verset 10, voici ce qui est écrit. « Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse à mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. » Amen. « Il m'a revêtu des vêtements du salut. » Ça y est, je suis sauvé. J'entrerai dans le ciel. Qu'est-ce que j'ai fait pour ça? Eh bien, comme on l'a dit tout à l'heure, je suis venu tel que j'étais et j'ai cru, notre sœur nous l'a dit tout à l'heure, la foi toute simple dans l'œuvre de Jésus. Parce que pour nous communiquer ce vêtement blanc, ce vêtement pur, quelque chose a dû se passer. Qu'est-ce qui a dû se passer? Eh bien, le sacrifice de Christ accompli à la croix. Tenez, laissez-moi vous lire un dernier passage dans le livre de l'Apocalypse, qui est le dernier des livres de la Bible, nous l'avons dit tout à l'heure, au chapitre 7. Voilà. Au verset 9. On est dans le ciel, vous voyez. L'apôtre Jean a eu une révélation. C'est comme si les cieux se déchiraient et il a vu ce qui se passe là-haut, dans la présence même de Dieu. Et il dit cela, chapitre 7, verset 9. « Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau. » L'agneau, c'est Jésus. « Revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, des vieillards et des quatre êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant, « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils ? Et d'où sont-ils venus ? » Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, viennent de la terre. Et ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. » Voilà, une grande foule. Les gens qui viennent d'Europe, d'Amérique, d'Afrique, d'Asie, des îles, voyez, des gens de toutes conditions, de toute origine, de toute langue, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, voilà. Et ces gens-là, ils sont tous revêtus d'une robe blanche. Et l'apôtre Jean est le témoin émerveillé de cet événement, cette foule de rachetés, d'hommes, de femmes sauvés, qui sont devant le trône de Dieu pour l'adorer, qui ont part aux joies, aux privilèges du ciel. Alors on lui pose la question, d'après toi, qui sont ces gens-là? Ah, Seigneur, je ne sais pas trop, hein, explique-moi. Ben, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ici-bas, ils ont connu des épreuves, des coups durs. Mais voilà, il n'y a pas eu que ça, n'est-ce pas? Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Ton cœur a besoin d'être nettoyé, d'être purifié, d'être lavé. Et seul le sang de Jésus qui a coulé sur la croix, seul le sacrifice du Fils de Dieu est en mesure d'enlever ton péché, de pardonner. Voilà. Comme si tu n'avais jamais rien fait de mal. Parce que Dieu ne fait pas les choses à moitié. Hein. Quand il pardonne tout et il pardonne tout à fait. Alléluia. Hein? Des fois, le diable vient nous titiller, même après qu'on se soit converti. Dis donc, souviens-toi un petit peu de ce que tu as fait. Tu es vraiment sûr que le Seigneur t'a pardonné? Mais tu te trompes. Alors, parce que tu as fait un petit bout de prière, tu lui as demandé pardon, tu crois que c'est fini tout ça? Mais non. Mais c'est un menteur, le diable. Ne le croyez pas. Si vous demandez pardon, Seigneur, le plus sincèrement du monde, si vous lui dites, Seigneur, je veux vraiment changer de vie, changer de comportement, devenir un autre homme, une autre femme, Je veux régler ce qui doit être réglé dans ma vie. Je veux avec ton aide mettre de l'ordre dans mon existence. Je veux que tout mon passé soit éliminé, purifié, lavé, pardonné de toute souillure. Eh bien, il le fera, non pas que vous le méritiez. Jésus l'a mérité pour vous. Il est mort sur la croix. Vous savez, le pardon, ça a un prix. Pour nous, c'est gratuit, mais pour lui, ce fut coûteux. Il a donné sa vie. Pourquoi est-ce qu'il est mort? Simplement pour nous impressionner? Non, il fallait que ce soit comme ça. Il fallait que le péché soit puni, parce que Dieu est juste. Et la justice de Dieu exige que le péché soit sanctionné. Le salaire du péché, c'est la mort. Et voici que nous sommes pécheurs dont nous méritons la mort. Comment faire alors pour nous épargner ce sort tragique? Eh bien voilà la solution que Dieu a mise en œuvre. Il a fait retomber sur Jésus, qui lui était sans péché, le péché de nous tous. Et à notre place sur la croix, il a subi la punition que nous méritions. Voilà, et désormais, la justice de Dieu est satisfaite. De telle sorte que tout ce qui nous reste à faire, comme ça a été dit et redit, c'est de croire. Si tu crois, eh bien, tu verras la gloire de Dieu, on l'a chanté. La gloire de Dieu, comment Dieu se glorifie en nous sauvant, en nous donnant la vie éternelle, en nous faisant grâce. Mes amis, ceux qui iront dans le ciel un jour ne pourront pas dire « j'y suis parce que j'étais un homme extraordinaire. Vraiment, j'étais une femme remarquable. Et j'ai été tellement bon, tellement brillant, vous voyez, que Dieu n'a pas pu faire autrement que de m'accepter auprès de lui. » Mais non, mes amis, le ciel ne se mérite pas, c'est un cadeau que Jésus a mérité en notre faveur. Voilà. Alors, cet après-midi, venez à lui, dites-lui, « Seigneur, sauve-moi. » Il suffit que vous lui disiez, « Seigneur, je reconnais les faits, je ne peux pas les nier. Allez, quoi? C'est vrai, je suis un pécheur. J'accepte d'ouvrir les yeux. Ce que j'ai fait ici, là-bas, ailleurs, c'est mal, c'est mauvais. Je t'en demande pardon. Seigneur, lave-moi. Donne-moi ce vêtement tout blanc, tout neuf, tout propre. Je ne veux pas rapiécer ma vie. Je ne veux pas raccommoder ma vie. Je ne veux pas essayer de faire du neuf avec du vieux. Je veux que tu me changes complètement, que tu me donnes d'être capable de vivre une vie nouvelle. » Le Seigneur le fera, gloire à Dieu. Il va éliminer les péchés, il va les détruire, il va les anéantir, les réduire à néant, quoi. Ça n'existera plus, je ne me souviendrai plus de leurs péchés, dit Dieu, ni de leurs iniquités. Voilà, c'est pardonné, c'est oublié, c'est effacé, mais plus encore, il va te changer. Tu vas découvrir en toi une capacité nouvelle, une force nouvelle. Et là où tu tombais dans le panneau jusque-là, là où tu cédais facilement à la tentation, désormais, tu seras rendu fort. Je ne dis pas tu seras fort, tu seras rendu fort. Parce que la force appartient à Dieu. Et cette force, il veut nous la communiquer par son esprit pour faire de nous des êtres remis à neuf tout entier. Alléluia. Que c'est beau, que c'est grand, que c'est glorieux, n'est-ce pas, lorsque Dieu prend le pire des pécheurs et qu'il en fait un homme, une femme qui désormais vit une vie selon la volonté de Dieu. Mais des fois, quand on sait, on apprend quel a été le passé de certaines personnes, de certains chrétiens, on est étonné, on se dit, mais comment c'est possible? Qu'il en soit là aujourd'hui, cet homme, cette femme qui mène une vie digne, une vie pure, une vie honorable, on a du mal à imaginer qu'autrefois il menait une vie de patachon, une vie de misère. Comment c'est possible? C'est possible par la grâce de Dieu. Alléluia. Parce qu'à Dieu, tout est possible. Et il veut faire de toi un homme, une femme, nouvelle. pas du raccommodage, je le répète, pas du rapiessage, pas du boulot bricolé là, à la va-vite. Non, une œuvre nouvelle, un habit neuf, une vie neuve. Gloire à Dieu, il est capable de faire cela et il le fait pour toi si tu viens à lui tel que tu es et de tout ton cœur, désirant qu'il te pardonne, qu'il te sauve et qu'il te change de l'intérieur pour qu'un jour il t'accueille dans son royaume éternel et que tu fasses partie de la foule. Hein. Moi j'ai envie d'y être là, dans cette foule qui sera un jour devant le trône de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. On prie le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta bonne parole. Merci Seigneur parce que